Europe 1, en balade avec Ariel Dombal, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Nous partons en balade aujourd'hui avec Ariel Dombal sur la colline de Chaillot. Ariel Dombal qui sort un film intitulé Alien Crystal Palace qu'elle a réalisé et qu'elle interprète. Elle nous a donné rendez-vous à l'aquarium du Trocadéro entre les requins, les méduses et les poissons rouges.
Europe 1, 11h30, en balade avec Ariel Dombal. Frédéric Taddeï.
Nous voilà donc dans l'aquarium du Trocadéro, l'aquarium de Paris. Ariel Dombal, bonjour, vous venez souvent ici?
Alors c'est étonnant pour moi, c'est d'une émotion mais qui me submerge, parce que mon premier film, Chasse et croisée, était face dans l'aquarium du Trocadéro, l'ancien. Et il y avait justement les axolotls, qui étaient les premiers batraciens qui sortent de l'univers aquatique pour aller sur la Terre et qui ont ces branchies externes. Et donc, mon premier film se trouvait ici.
Il a bien changé, hein, l'aquarium, depuis. Hein.
Mais l'aquarium est devenu magistral.
Là, nous sommes au milieu des méduses. Hein. Il y en a beaucoup et Dieu sait si c'est magnifique.
Mais étonnant. Et puis surtout, on se rend compte de l'espèce gigantesque qu'est la méduse. Parce qu'on pense toujours à un seul petit truc gélifiant. Mais il y en a de toutes les couleurs.
Et de toutes les tailles aussi.
Et de toutes les tailles. Alors moi, je dois dire que j'ai été piquée chaque année par les méduses.
C'est vrai ?
Oui, chaque année. Et c'est la grande invasion, en tout cas en Méditerranée, des méduses. Mais d'une espèce de méduse. Parce qu'ici, on voit toutes sortes de méduses. Qui ne sont pas tellement répertoriés.
On ne détesterait pas se faire piquer, d'ailleurs, tellement c'est beau.
Non,
hein.
Celle-là, on ne détesterait pas parce que c'est mais sur elle, ce qu'on voit. Sur elle.
D'ailleurs, vous les filmez en même temps. On les verra dans un prochain film, peut-être?
Oui, parce que je les ai déjà filmés, mais vous savez que dans Alien Crystal Palace, je suis dans le monde sous-aquatique.
Il y a même un sous-marin. C'est très rare qu'en France, on fasse des films avec des sous-marins.
Oui, parce que c'est la première fois où on laissait quelqu'un filmer un sous-marin nucléaire. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire, mais ça n'a pas été facile.
Et pourquoi ils vous ont dit oui à vous?
Eh bien, par sympathie, parce que...
Tout le monde vous adore.
Non, c'est pas ça, mais finalement, comme mon film est un film fait avec extraordinairement peu d'argent, très peu de moyens, donc il faut faire jouer les amitiés et dire « Oh, je vous en supplie, laissez-moi filmer, j'en ai pour 5 minutes, je vous jure, je ne ferai rien, je n'abîmerai rien », et on vous laisse filmer.
Et alors, quand vous sortez un film comme celui-ci, assez foutraque, on va dire, quels sont les avis qui comptent à vos yeux?
Les avis, avant tout, des gens à qui j'ai demandé tellement gracieusement d'être dans mon film. Les interprètes, les acteurs.
Il y en a une ribambelle, hein. Il y a Michel Faux, il y a Jean-Pierre Léo, il y a Asier Argento. Vous avez pris que des gens dont les noms finissent par O.
Ah oui, c'est vrai, comme O, comme l'aquarium, l'aquatique, sous les eaux. Et d'ailleurs, le film est autour de l'eau tout le temps. Et il aurait pu s'appeler Hello, qui signifie un peu l'alcool.
Hein, ou histoire d'eau.
Ou histoire d'eau. Ben, c'est un mélange de tout ça, justement. Et il aurait pu s'appeler Alcool d'Apollinaire aussi, avec un S. Parce que le rôle principal, Nicolas Kerr, est une personne qui, dans la vie, a recours beaucoup à l'alcool. Mais mon film, c'est l'ivresse des profondeurs aussi. Et c'est toutes les ramifications de l'eau. Sous toutes ses formes.
Mais alors, quand on est dans un endroit comme l'aquarium du Trocadéro, avec, je crois qu'il y a plus de 500 espèces de poissons, d'invertébrés qui sont là dans des bassins partout qui nous environnent, ça va du requin au poisson rouge. On se demande vraiment pourquoi on mange toujours les mêmes poissons, tellement il y en a.
C'est ça, mais moi déjà, je ne les mange pas.
Ah, vous avez fini de manger des animaux, c'est terminé.
Oui, je dis que je ne mange rien qui a des yeux, déjà. Comme je suis une grande nageuse, J'aime beaucoup le milieu aquatique.
Qui ne vous le rend pas, puisque les méduses vous piquent.
Elles m'ont piqué, voilà. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que la fois où elles m'ont piqué, j'étais à l'hôtel du Cap, d'Antibes, et ils avaient ramassé deux méduses qui agonisaient dans un seau. Et j'ai dit, mais non, ne faites pas ça, elles sont tellement belles, on va les rejeter dans la mer. Alors, ça a fait toute une petite histoire. Bon, rejetons les méduses dans la mer. Et finalement, elles ont été rejetées dans la mer. Et je suis allée nager gentiment et paf, je me suis fait mes super piquer. Donc
ici, ce qu'on peut faire, c'est donner son poisson rouge, vous savez. Parce que les poissons rouges, très souvent, on les jette dans les toilettes ou on va les jeter dans la Seine. On les rejette à la mer d'une certaine façon, mais il ne faut pas le faire. En fait, ils vous proposent ici, vous pouvez les laisser ici, revenir les voir. Et vous savez, le plus étonnant quand on donne son poisson rouge ici, c'est quand on revient, on ne le reconnaît pas parce qu'il fait 30 cm.
C'est ça.
Parce que les poissons rouges restent petits dans les petits aquariums, mais si vous le mettez dans un énorme bassin comme
voilà.
Ici, il devient très grand.
D'où toute la problématique. Est-ce que nous sommes mutants comme les animaux le sont? C'est les théories de Newton, qu'on s'adapte et qu'on change. Donc en effet, si le poisson rouge a un espèce de minable petit aquarium, il va être. Oui.
Mais je pense que vous faites plutôt allusion à Darwin qu'à Newton.
Oui, j'ai dit Newton. Ah oui, Newton, c'est la pomme qui tombe. Et Eureka. Quelle est la théorie de Newton déjà?
Oui, c'est l'attraction terrestre.
L'attraction terrestre, c'est ça. Non. On a tous traduit Darwin, c'est ça.
Bien entendu.
Et nous sommes une espèce en mouvement, comme les méduses qu'on voit là, qui s'adaptent au milieu. L'adaptation au milieu, est-ce que ce n'est pas finalement un concept platonicien, être heureux dans le cosmos qui vous entoure, trouver sa place.
Je suis sûr que vous vous adaptez à tous les milieux, vous, non?
Moi, oui, parce que
vous êtes partout chez vous.
Oui, un peu, je dois avouer. Mais je souffre quand les endroits sont abîmés par rapport aux expériences que j'ai vécues de grand éblouissement. Ça, oui.
Vous voulez dire qu'il arrive que ce soit moins beau que la fois précédente?
Quelquefois, oui. Voilà, on arrive dans le fin fond du petit village portugais, le petit port à poissons avec trois maisons et deux barques, et on se retrouve dans une sorte de poubelle avec des immenses constructions.
Vous n'aimez pas les touristes?
Les touristes n'ont jamais été aimés, et pourtant nous en sommes.
Oui, mais ce qu'on voudrait, c'est être le seul touriste, au fond.
Voilà, le seul touriste, au fond.
Regardez, là, on est devant un très, très grand bassin.
Et là, nous sommes vraiment les touristes de la mer, parce que voilà. C'est un milieu qui nous est assez hostile, en général. Si on savait respirer sous l'eau, il le serait moins. Mais moi, je dois dire que ça m'a toujours absolument fascinée. Et Alien Crystal Palace, j'ai mis mon personnage, Michel Faux, dans un sous-marin qui est le symbole de la puissance, un peu comme dans les films de James Bond. Quel est l'endroit où on observe? Quel est l'endroit silencieux, replié entre tous, mystérieux, où on peut exercer son pouvoir? Eh bien, c'est sous l'eau.
Vous savez que c'est ici, dans cet aquarium qui, je crois, est le plus ancien du monde, l'aquarium du Trocadéro, puisqu'il a été inauguré en 1862,
c'est,
je crois, sous Napoléon III. Et c'est ici que Jules Verne aurait imaginé 20 milieux sous les mers.
Mais
en voyant tous ces poissons.
Il a été inauguré quand?
Je crois que c'est 1862 ou 1867. Ça doit être dans ces eaux-là. Vous savez, on doit beaucoup de choses à Napoléon III. Il a mauvaise réputation parce que...
Parce qu'on imagine tout de suite un pouf en velours rouge avec
vous,
des...
C'est à ça que vous pensez? Moi, je pensais plutôt à la défaite de 70.
Ah bon?
En tout cas, on le voit mal, mais on lui doit plein de choses.
Oui.
Notamment, c'était à cette époque-là, je crois que c'était ses écuries qui étaient là autrefois, dans les anciennes carrières de la colline de Chaillot.
Oui.
Et c'est ici qu'on a fait l'aquarium.
Mais quelle brillante idée. Et c'est un endroit mais absolument magique.
Et
je suis
grisée.
On va y rester encore un peu avec
Ariel
Dombal. Tout le temps.
Un peu.
Je veux vivre ici.
Ce dimanche, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et Ariel Dombal. Et pour une fois, on ne les retrouve pas dans une rue parisienne ou un café, mais à l'aquarium du Trocadéro.
Nous voilà devant les requins. C'est le monde des requins ici. Voilà des animaux qui jouissent d'une très mauvaise réputation, Ariel Dombal.
Très mauvaise réputation. Et c'est vrai que souvent, pour qualifier les êtres, on dit que c'est des requins. parce qu'en effet, ils se faufilent et ils finissent par vous mordre. Mais il semble que dans leur milieu naturel, ils ne nous attaqueraient pas s'il n'y avait pas du sang, l'appel du sang. Mais sinon, c'est, je crois, un animal qui est relativement clément.
Oui, il y a bien moins de problèmes avec les requins qu'avec les dauphins.
Et avec les méduses. Mais les dauphins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous tapent dessus, je crois.
Oui, ils sont attirés par les femmes, les dauphins.
Ah oui, mais figurez-vous que j'ai nagé avec des dauphins et Alain Delon au Mexique, dans un gros aquarium, enfin en plein air. Et il fallait donc les prendre par leur petit aileron. Et ils faisaient le tour du bassin comme ça à toute allure. Et c'était une impression assez extraordinaire.
Oui, c'est sûr.
Et on comprend que le dauphin fascine, parce que d'abord, c'est un mammifère. Le requin ne l'est pas. Voilà.
Et puis, il y a une question de musique. Vous avez remarqué la musique qu'on met dès qu'on voit un film sur les requins, il y a une musique toujours très dramatique. Si on mettait la même musique sur les dauphins, on aurait peur des dauphins.
Un petit peu peur, mais parce qu'ils sont quand même très très gros et ils ont cette espèce de sourire, mais les dents sont gentilles. Là, quand le requin, il a toujours l'air fâché parce qu'il a la bouche vers le bas comme ça, et c'est ça qui intimide.
Oui,
non,
c'est sans doute ça. Oui,
oui, parce que le dauphin, il a l'air de rigoler. Je pense que ça part de là, tout simplement.
Alors, vous avez fait un film, Arielle Dombal, sur l'androgynie. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'androgynie?
Eh bien, c'est cette merveilleuse légende d'Aristophane, comme quoi il y a eu un monde, un âge d'or, où il y avait cette créature parfaite qui s'appelait l'androgyne et qui a péché par urbicité. Elle a été coupée en deux et jetée dans le monde. Et nous cherchons tous la moitié, notre moitié perdue.
L'androgynie, c'est donc de réunir l'homme et la femme qui auraient été séparés.
Voilà. Et nous sentons en nous qu'on a de l'homme, du masculin et du féminin, et qu'il faut recomposer l'entité avec l'homme et la femme qui se trouveront dans la personne opposée.
Et c'est Michel Faux qui joue une sorte de savant fou qui a l'air sorti d'Adèle Blanc-Sec, la bande dessinée de Tardy.
Absolument, en même temps...
Une sorte d'ésotériste comme ça qui veut réconcilier le couple parfait.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un savant omniscient qui est presque au sommet. C'est un être assez dogmatique et qui croit tellement en ses théories. Il croit notamment que mieux que Tinder, Mythique, Grindr, qui sont les nouveaux sites de rencontres, qui les logiciels vous disent oui, telle personne qui aime aller au cinéma, grimper la montagne, faire des voyages et du ski nautique est faite pour vous. Eh bien, lui, il pense que ça se joue dans l'inconscient et qu'il est amène, comme une sorte de psychanalyste supérieur, de dire telle personne est faite pour telle autre, car ils ont un inconscient qui s'adapte, qui est fait l'un pour l'autre. Et donc ce Michel Faux, c'est une espèce de grand orchestrateur qui est le subconscient. Il y a le moi, le surmoi et le ça. Dans mon film.
Moi, j'ai l'impression que dans votre film aussi, c'est une sorte de comédie romantique à la française, mais à la façon d'Alain Robbe-Grillet, que vous avez bien connu. Il y a le côté rigolo des films d'Alain Robbe-Grillet, mais après tout, c'est une comédie romantique, puisque tous les oppose, vos deux personnages principaux, celui que vous interprétez et l'homme interprété par Nicolas Kerr.
Absolument.
Tous les oppose, et pourtant, on veut les marier à la fin, comme
Absolument.
Dans les comédies romantiques.
Comme dans les comédies romantiques. Mais c'est tout de même, je dirais, une tragédie musicale gothique.
Ah bon,
si on devait... Oui, il y a dans mon film une espèce d'hyperréalisme fantastique, mais qui est assez noir. Et c'est vrai que Nicolas, comme moi, on partage les mêmes goûts. On aime beaucoup les romantismes.
Nicolas Kerr, avec qui vous aviez fait un disque, hein, La rivière Atlantique en 2016, on va le voir, il nous attend.
Oui, on va aller le rejoindre. Mais Nicolas, c'est quelqu'un qui a fait la bande-son du film. Et La rivière Atlantique était un peu le corpus musical. C'est de là où est né le film, n'est-ce pas?
Oui, vous en parliez déjà à l'époque de la sortie du disque. Vous parliez déjà de ce film que vous vouliez faire ensemble.
Bien sûr, parce que ça a mis 4 ans de genèse. Et puis finalement, comme les films pauvres, on a tourné très, très, très vite. Mais ça a mis 4 ans, oui, à s'accomplir. Et ce qui est, vous parliez de romantisme, mais nous aimons aussi dans la littérature les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup Kleist, on aime Goethe, on aime Novalis, on aime ces transes, cet hyper-romantisme des romantiques allemands. Et donc, on retrouve ça, en effet, dans la...
Mais pourtant, moi, je trouve quand même qu'il y a un côté comédie là-dedans. Peut-être parce que vous, pour moi, vous êtes une héroïne de comédie. Je vous vois toujours malicieuse.
Parce que je suis assez malicieuse et j'aime beaucoup rire. J'ai pris là une forme, j'ai voulu mélanger les genres parce que mon film est complètement libre. Et donc, il est difficilement classable. Et c'est comme dans la vie, 24 heures de la vie de nous tous, on passe par plusieurs états. On n'est pas le même tout le long de la journée.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est toujours pareil chez vous, c'est que vous n'arrivez jamais à vous prendre totalement au sérieux.
Je prends les choses que je fais très, très au sérieux. Je me donne un mal fou.
Ah oui, mais c'est pas la même chose.
Je souffre beaucoup. Mais dans la vie en général, j'aime le sourire et j'aime le rire. Mais le rire, c'est assez diabolique aussi.
Regardez, là, il y a des poissons bleus, mauves, jaunes. Pourquoi ne mange-t-on jamais les poissons qui ont des couleurs phosphorescentes ?
Mais est-ce qu'on les a goûtés ? De toute façon, je pense que les êtres humains, on est l'espèce la plus forte, a tout goûté, a tout essayé. On dit aussi qu'ils ont tout écrit, tout photographié, tout pensé. Tout. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle qui arrive, ça va être encore pire. Mais le fait est que les poissons très, très beaux, est-ce qu'ils sont aussi charnus ? Enfin, ça doit être posé comme question et répondu.
Hein. Vous avez goûté à tout, avant de devenir végétarienne ?
Moi, à rien. Je n'ai pas du tout envie de goûter les autres espèces.
C'est vrai ?
L'espèce humaine me suffit.
Est-ce que vous avez goûté l'espèce humaine ? Est-ce que vous avez mangé de l'homme un jour ?
Non, mais l'anthropophagie, ça n'existe... Si, ça existe encore, je crois, sur la planète.
Oh,
il y a encore des gens qui se mangent. Oui, il y a encore. Regardez celui-là. Il a des ailerons complètement désynchronisés. C'est tellement mignon.
Et des yeux mauves. Hein.
Et il fait du surplace.
Il a des yeux bleus. Même les yeux d'Elizabeth Taylor, à côté, c'est rien. Hein.
C'est vrai. Un bleu fluorescent qui tend vers le mauve avec des sortes de d'irradiation. Et ceux-là, ils sont très, très, très minces. Sinon, ils ne peuvent pas se voir de face. Ils ne peuvent se voir que de côté, sur la tranche.
On va quitter l'aquarium à regret.
Je l'adore.
Et on va retrouver le soleil, puisqu'il fait très, très beau dehors.
Hein, il fait très beau et on rejoint Nicolas Kerr, qui est...
au Musée de l'Homme.
Frédéric Taddeï, en balade avec Ariel Dombal sur Europe 1.
Elle a décidé d'emmener Frédéric Taddeï dans les jardins du Trocadéro, des jardins presque en lien avec sa famille.
Nous sommes maintenant dans les jardins du Trocadéro avec Ariel Dombal. À droite, le palais de Chaillot, à gauche, la tour Eiffel, face à nous, la fontaine du Trocadéro avec ses 20 canons à eau dont les jets finissent dans des petits escaliers. Vous aimez cet endroit ?
Ce que j'aime, c'est que l'eau monte plus vite qu'elle ne descend.
Oui, c'est vrai.
Oui, et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, étrangement, cet endroit, je l'ai choisi pour l'aquarium, mais j'aime beaucoup l'architecture. Et c'était un copain de ma grand-mère qui a fait ça, qui s'appelait Jacques Carlu, un architecte prix de Rome 1920. C'est lui qui a eu l'idée de faire l'ouverture, parce qu'avant le Trocadéro, il y avait des maisons tout autour.
Oui, c'était un palais. Enfin, le palais du Trocadéro, c'est beaucoup moins beau. Vous avez grandi au Mexique, Ariel Dombal. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé à Paris ?
Oui.
Pour vivre avec votre grand-mère, d'ailleurs, je crois.
Oui, c'est ça, pour vivre. Enfin, je venais à Paris en vacances et j'allais d'une part dans le château de mes grands-parents, qui était en Bourgogne, qui s'appelle le château de Chintrey, où il y avait du vin aussi, des vignobles. Et donc, c'était très élégant. Et il y avait les plus grandes, les ifs taillés, les plus grands d'Europe.
Ah oui ?
Donc ça, c'était vraiment très, très beau. Maintenant, ça a été vendu à la ville de Mâcon et c'est devenu 17 appartements. Ils ont tout rasé et mis du crépi et tout le monde est content. Et c'est voilà.
Ah, c'est la démocratisation, ça.
Eh bien, voilà.
Mais Paris, Quel effet ça vous a fait?
Et alors Paris, la première chose qui m'a... Enfin, j'ai été éblouie, comme tout le monde, j'ai trouvé les voitures très petites. Elles sont beaucoup plus petites qu'au Mexique. Et puis, il fallait traverser dans les clous. Et ça, je n'avais jamais vu les clous, les ronds comme ça.
Oui, c'est vrai.
Et l'idée que dans la rue, on ne puisse pas traverser n'importe où, mais sur les clous, c'est une chose que je trouvais aberrante.
Je vois que vous continuez de fumer en dépit de l'augmentation du prix du paquet.
Je ne sais pas exactement combien il coûte, mais il pourra augmenter comme tout ce qui est bon à l'infini. Les gens fumeront toujours.
Vous croyez?
Mais oui.
Vous, en tout cas, vous êtes bien parti.
Ben non, je ne fume pas tellement.
Pourquoi vous aimez tellement l'écossais? Vous avez toujours, là, vous avez une jupe écossaise et
une
écharpe
de
écossaise.
Kilt.
Et j'ai failli mettre une écharpe écossaise. Je me suis dit, non, Ariel aura sûrement la sienne.
C'est vrai, vous m'avez vu souvent avec de l'écossais.
Oui, et très souvent.
Mais j'aime bien le côté Irish. Et puis, je ne sais pas, il y a toujours dans... Parce qu'il faudrait savoir lire l'écossais, parce que ce sont les divers familles. Et c'est imprimé sur la manière dont les petites rayures et les carreaux
oui,
sont...
Oui, c'est le symbole des clans.
Voilà.
Vous avez essayé les petites trottinettes électriques qui jalonnent maintenant les trottoirs. On les laisse là, on attend que quelqu'un d'autre les prenne.
Non, mais je suis sûre qu'elles vont être volées très, très vite.
Vous croyez?
Parce qu'elles sont assez mignonnes. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'emporterait pas à la maison? C'est la question que je me pose.
Je ne sais pas, ils ont dû trouver un truc.
Vous croyez?
Oh, sûrement.
Mais ce qu'il y a d'assez étonnant avec l'espèce humaine aussi, c'est que les gens détournent très vite tout. Il semble que les petites voitures électriques, très très mignonnes et tout ça, les gens dormaient dedans et en faisaient une espèce de mini-maison. Et donc ça a été supprimé.
Ben, le téléphone, Graham Bell l'avait inventé pour que ce soit l'appareil pour les sourds.
Ah oui?
Oui.
Il avait un joli nom pour les téléphones.
Alors là, il y a plein de touristes, comme toujours, au Trocadéro.
Mais c'est vrai, il n'y a pas de Français, il n'y a que des touristes.
Nous-mêmes
Nous-mêmes, on est des personnages totalement exotiques, perdus au milieu de la foule des touristes.
Une chanson que j'aime beaucoup de vous, qui vous ressemble beaucoup, qui figure sur votre album Glamour à mort, bah c'est justement Glamour à mort.
Ah oui.
Je pense que c'est le bon endroit pour l'écouter.
D'accord.
Alors ma vie éclate pour amour.
C'était Glamour à mort, interprété par Ariel Dombal, que je m'empresse de rejoindre sur le parvis des droits de l'homme. A tout de suite.
La balade de Frédéric Taddeï et Ariel Dombal continue dans le 16e arrondissement sur la célèbre esplanade qui contient plein de petits gadgets, ce que préfère l'artiste.
J'ai rejoint Ariel Dombal sur le parvis des droits de l'homme. Vous étiez en train d'acheter un petit chien, parce qu'ici on vend beaucoup de verroteries du 21e siècle.
Exactement.
Vous avez acheté un petit chien avec un gilet jaune.
Ah, voilà, un petit chien avec un gilet jaune. Et mon chat va être médusé. Puisque nous sortons des méduses, voilà le mot qu'il faut. Et en effet, le chaland dont nous sommes là, on est le chaland. Moi, je suis toujours attirée par toutes les petites choses. J'ai envie de tout acheter tout le temps.
C'est même vrai, les petites tours Eiffel.
Oui, mais j'aime celles qui s'allument avec tous les petits iodes, comme ça. Elles sont irrésistibles.
Alors ici, le parvis des droits de l'homme s'appelle le parvis des droits de l'homme parce que c'est ici qu'on a signé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1948 au palais de Chaillot.
Oui.
Et c'est ici que les touristes viennent se faire photographier devant la tour Eiffel. Le premier ayant été Adolf Hitler, vous savez.
Non, ça, je savais pas.
Quand il est venu visiter Paris, il y a des images, on le voit ici, qui se fait filmer avec ses...
Et avec ses chiens, parce
non,
qu'il
non,
avait des
non,
chiens
il est pas
aussi.
Venu avec ses chiens,
c'est peut-être les mini-chiens sont en rapport.
Et depuis lors, tout le monde vient ici se faire photographier devant la tour Eiffel. Compris. Nous, vous êtes pour les droits de l'homme, vous, Ariel Dombal ?
Est-ce que je suis pour les droits de l'homme ? Oh, mais c'est merveilleux. Je dois dire que c'est une invention qui a un petit peu changé la trajectoire de toute l'humanité. Enfin, bon, c'était absolument pas gagné d'avance, les droits de l'homme.
Mais c'est pas gagné non plus, d'ailleurs,
non,
aujourd'hui.
Non, ça ne l'est pas du tout.
Aucun pays ne les respecte, d'ailleurs, vous avez remarqué.
Aucun. Et les devoirs non plus. On parle peu des devoirs, parce que, évidemment, c'est un petit peu plus complexe à cerner. Le devoir.
Mais les droits de l'homme, c'est un peu comme d'envoyer une lettre au Père Noël. C'est toujours sympa, les lettres au Père Noël, mais nos parents n'ont pas toujours les moyens de nous offrir ce dont on rêve. Et...
Non, mais enfin, on écrit au Père Noël et quand même, on a des surprises. C'est le principe.
Vous savez que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme prévoit que tout le monde peut s'établir librement dans le pays qu'il désire.
Ah oui ?
Ouais.
S'établir librement,
oui, oui.
C'est déjà le mot établissement.
On peut choisir son lieu de résidence dans n'importe quel état. Il n'y a aucun pays qui est prêt à accepter un truc pareil.
Non, mais en plus, c'est le mot librement, une fois de plus. Qu'est-ce que ça veut dire, librement ? C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de changer de pays, mais vous retrouvez dans des camps avec des barbelés tout autour et des tentes qui fuient et des nourritures plus que hypothétiques. Et voilà, oui. Donc c'est le mot libre surtout.
Donc là, nous sommes entre les deux ailes du palais de Chaillot. Il y a de grandes statues dorées, des allégories. Je crois qu'il y a la jeunesse, il y a le matin. Il y a sept femmes et un garçon. Vous avez remarqué, là, lui, c'est un petit garçon. Avec un arrosoir.
Mais oui, mais alors, vous me le faites remarquer parce que ce qui me plaît beaucoup, c'est que les femmes soient majoritaires.
Oui.
Il faut dire que la femme, sculpter une femme, c'est irrésistible.
Oui.
Donc je comprends que là, elle soit majoritairement représentée.
Maintenant, mais pas pendant l'Antiquité, où le corps de l'homme était exalté.
Oui, et je dois dire qu'au musée des Offices, il y a le fameux buste d'Antinous, qui est une des choses les plus belles que j'ai vues. Sur lequel s'est articulé un désir, mais foudroyant, ce qui me concerne.
Vous aimez beaucoup la nudité, vous. Dans votre film, il y a beaucoup de nudité.
Oui, c'est vrai.
Avec un doigt de porno.
Oh, vous trouvez ?
Il y a porno chic, un peu de porno quand même.
Non, je ne dirais pas ça, je n'emploierais pas ce mot. Il y a tout simplement des images très choquantes, très transgressives.
Ah, moi, ça ne m'a pas choqué, j'ai trouvé ça porno sympa.
Ah bon, non. le mot sympa n'est pas tellement...
Porno Ariel Dombalien.
Oui, peut-être. Enfin,
on en
je
parlera
ne sais pas.
Puisqu'on va voir deux de vos interprètes,
oui.
Joséphine Delaboum et Zoé Lebert. On va leur demander si elles trouvent pas que c'est du porno chic.
Et surtout Nicolas,
qui
évidemment, lui, montre ce qui, en général, est caché.
Voilà, exactement. Là, on est devant le musée de l'Homme. Vous y alliez enfant ?
J'y allais enfant. Ma grand-mère m'emmenait au musée de l'Homme. Et j'avais l'impression... je ne comprenais pas bien qu'est-ce qu'on y... découvrait. C'était tellement pour moi vaste et anarchique. C'était l'histoire des peuples, des civilisations, c'était des tissus, c'était des céramiques, c'était des ossements, c'était des photographies, c'était une sorte de pas de Capharnaüm, mais de petit univers en miniature. Il y avait le musée de la marine qui était accolé, oui. Voilà, et tout ça.
Était... Il y est toujours, d'ailleurs, il est toujours. Il est le musée de l'homme a beaucoup changé, puisque énormément de pièces ont été transférées au musée du Quai Branly, le musée des arts premiers. Mais le musée de l'homme a rouvert depuis, et nous allons
y pénétrer. Oh, quelle émotion!
On se pose tous des questions existentielles et vous allez entendre que c'est aussi le cas pour Frédéric Taddeï et Arielle Dombasle dans la suite de leur balade.
Nous sommes dans la galerie de l'homme, au premier étage du musée de l'homme, et sur le mur sont écrites ces trois questions qui résument en fait la réponse à la question que vous posiez, Arielle Dombasle, quand vous étiez enfant. Quoi ça sert ce musée? Ben, c'est ça. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et si nous tentions de répondre à ces questions, bienvenue dans la galerie de l'homme.
Eh bien, moi, il me semble que j'ai répondu dans Alien Crystal Palace, notre film, puisque oui, d'où sommes-nous? Nous sommes justement ces créatures qui cherchent leur double terrestre.
Et d'ailleurs, votre double dans le film est là, c'est Nicolas Kerr, chanteur du groupe Pony Oax. Vous avez écrit ce film ensemble, tous les deux. Et l'idée vous en est venue au moment où vous sortiez votre album La Rivière Atlantique, qui était sorti en 2016.
Ben, je montrais à Ariel, à tout ce qu'il ne connaît pas du tout, c'était les films italiens d'horreur des années 70, Argento, etc., Lucio Fulci, tout, ça l'a pas mal fasciné. Je lui dis comme ça en rigolant, écrivez-en un. En fait, on l'a fait sur des nappes en papier, le restaurant.
Est-ce que vous trouvez que ça ressemble au film d'horreur que vous aviez en tête au début?
Pas du tout. Mais en même temps, je savais très bien que ça va être carrément autre chose.
Pour Alien Crystal Palace, on est tout de même parti du corpus musical de La Rivière Atlantique. Le film dans le film s'appelle La Rivière Atlantique. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça a commencé par être écrit par Nicolas et son acolyte Florian Bernas, qui est un urgentiste, qui a écrit un dictionnaire du rock.
Pas que ça, il a écrit aussi un dictionnaire des forêts dans lesquelles aller faire son jogging.
Dans ce film, vous appelez Dolores, donc douleur, en espagnol. Et je sais que Nicolas Kerr vous dit tout le temps que vous êtes doloriste. Donc je me suis dit que ce n'était pas par hasard si vous étiez prénommé douleur dans ce film. Vous êtes si doloriste que ça, Arielle Dombasle?
C'est-à-dire que j'ai bien étudié ce courant doloriste, qui est un courant du XVIIe siècle de religieux, en fait, et qui se dit que pour atteindre la plénitude de l'existence, pour bien sentir où on est, ce qu'on est, il y a un passage obligé par la douleur et qu'il ne faut pas la rejeter ou l'annihiler ou penser que ce n'est pas quelque chose intéressant à vivre. Voilà,
Et c'est intéressant à vivre, la douleur?
Oh,
vous complaisez dans la douleur?
Non, je pense que tous les gens du monde, ceux qui veulent créer des choses, passent par des portes extraordinairement étroites et on marche sur des cailloux extraordinairement pointus et les rivières nous emportent dans des vitesses effrénées et on est comme la paille dans le fleuve et on souffre fatalement beaucoup pour obtenir quelque chose qui soit relativement précis et conforme à l'image, au rêve qu'on s'est donné comme but à atteindre.
Nicolas Kerr a des doutes.
Moi, je souffre pratiquement tout le temps dans ma vie, pour plusieurs raisons. Et vraiment, je hais ça. Je préfère être heureux et stupide. Et être, en gros, Homer Simpson, quoi, qui est content parce qu'il y a une pub sur une échelle à la télé. Je préfère de loin ça, hein, franchement.
Oui, mais ce que j'aime dans le personnage de Nicolas, justement, c'est que c'est un des derniers rockers et ils sont complètement hors du temps maintenant. Et ce sont des personnages, c'est Antonin Artaud, c'est le poète maudit, c'est la figure romantique du romantisme noir.
Pas hors du temps, Ariel. On coexiste dans tous les temps en même temps.
Peut-être, mais ça vous fait beaucoup souffrir et vous avez recours à l'ivresse pour vous essayer de vous en sortir.
C'est plus compliqué que ça, je pense.
Thank you.
Là, nous sommes devant des squelettes, un homme et une femme. Il est écrit que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres.
Mais il faut dire que là, il y a une représentation des espèces, mais qui est assez restreinte, hein, parce qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça.
Oui, mais il y a des singes, il y a des orang-outans.
Voilà, il manque tout le règne des batraciens, il manque le règne des reptiles, il manque le règne des aquatiques.
Oui, mais ça, pour ça, il faut aller au jardin des plantes, Ariel.
C'est ça.
Ici, c'est un musée de pourri comme animal que le sapiens. Plus perfide, il y a le chat, quand même. C'est pour ça que je vis tout le temps avec des chats, parce qu'il m'apprend des leçons en perfidie, parce que moi, de base, je suis naïf.
Oui, mais enfin, Nicolas a eu une chatte merveilleuse, Mina, qui est morte il n'y a pas longtemps. Il l'a eu pendant 20 ans. Et pourtant, elle écoutait du hard rock et du métal toute la journée. Et elle était vraiment très, très gracieuse. Et d'ailleurs, le chat dans Alien Crystal Palace...
C'est des chapeaux avec du jambon. Hein.
Oui, il essayait de la martyriser un petit peu, mais par amour. Voilà.
Elle a vécu 22 ans avec moi.
Oui, donc quand même, ça a marché. Mais dans Alien Crystal Palace, notre film, le chat, et notamment la déesse Bastet, est beaucoup d'importance. Il y a un grand bal à Venise, sous le signe du chat, et la déesse Bastet représente cette petite figurine qui est l'objet transitionnel, parce qu'on est quand même dans un... film très psycho.
Plein de symboles et
d'ésotérisme. Et vous savez qu'en psychanalyse, il y a des objets qui sont déclencheurs d'imaginaire et de traumatisme. Et dans Alien Crystal Palace, c'est le chat. Et c'est la petite déesse Bastet.
J'ai remarqué d'ailleurs que dans ce film, vous vous évanouissez beaucoup. Et c'est quelque chose qui arrive souvent au cinéma et dans la bande dessinée, on s'évanouit. Est-ce que dans la vie, on s'évanouit aussi ? Vous êtes déjà évanoui ?
Toute la journée.
Elle s'évanouit ?
J'ai là tout le temps la relever.
Non, mais il est vrai que Nicolas, sous des allures vraiment de prince maudit et de poète maudit et de noirceur et d'alcool et d'ivresse, et dans le film, est plus fort que Dolores qui, elle, échappe au réel en s'évanouissant. L'évanouissement, c'est je ne supporte pas le réel tel qu'il est.
Ça existe dans la vie, ça me
Je me suis beaucoup évanouie. Moi, je me suis beaucoup évanouie par émotion.
On se souvient de rien, pas ?
Si, on se souvient. Mais alors, après, les gens mettent d'autres labels. Parce qu'à chaque époque, il y a des labels. Maintenant, on dit, c'est un malaise vagal. Et puis, on dit d'autres trucs. Mais en fait, c'est un simple évanouissement.
Avant, on disait, il y avait ces vapeurs. On disait.
Oui, vapeurs aussi. Et d'ailleurs, on parlait beaucoup des humeurs avant. Maintenant, c'est disparu. On dit, il est de mauvaise ou bonne humeur. Mais il n'y a plus d'autres fragments d'humeur possibles.
La bile noire, pour laquelle on a tellement saigné les gens. On cherchait la bile noire qui n'a jamais existé. C'était la mélancolie.
La mélancolie. Oui, mais en fait, l'idée de se faire de la bile... est quand même quelque chose que l'on conçoit bien. Quand on a l'impression d'avoir un sang qui est comme de l'encre et on se fait de la bile, c'est quelque chose de très physique, c'est très parlant.
Vous fermez les yeux en même temps que vous dites
oui,
ça.
Oui, parce que j'essaye de penser que Nicolas, qui a un foie incroyable, c'est un phénix, parce qu'il renaît toujours. Et on lui a dit à un moment donné que son foie n'avait plus que très, très peu d'autonomie. Et voilà, et tout à coup, il ressurgit de ce terrible territoire de l'anomalie. Mais
vous savez, ma maladie, en effet, c'est la mélancolie. La mélancolie, maintenant, il y en a une définition un peu... on prête à la mélancolie une forme de romantisme qui s'attarde dans le souvenir, comme quand on prête au romantisme un espèce de fleur bleue qui n'est pas du tout le sien.
Non, la mélancolie, c'est
une maladie
mentale.
Ouais, c'est une maladie mentale, exactement. Par exemple, on peut appeler des maniaco-dépressifs, on les appelait des mélancoliques à l'époque.
Mais je vous propose, pour rester dans l'ambiance, qu'on écoute tous les deux quand vous chantiez Point Blank à bout portant.
Oh, oui.
C'est un extrait de votre album La rivière atlantique, Nicolas Kerr et Ariel Dombal.
Mimosa. It had stolen the world and white all the traces. And a girl kept on walking on and on. Well, she was never heard. She kept dreaming of a home. I think that I heard something she said while she was starting to flutter with the birds far away. The smile on her waist and a hand on her song while she pressed her gun. Rest in silence while the sky goes out and burns us to burn and scream and shout. I can see it now and your rolling eyes. There's some time to live and some time to die.
C'était Point Blank, interprété par Ariel Dombal et Nicolas Kerr, un extrait de l'album La Rivière Atlantique.
Ariel Dombal et Frédéric Taddeï ont été rejoints pendant leur balade dans le Musée de l'Homme par le chanteur et réalisateur Nicolas Kerr.
Nous voilà face à des bustes, hein, dans la Galerie de l'Homme, que nous arpentons avec Ariel Dombal et Nicolas Kerr. C'est très beau, hein, ce qu'on voit là.
C'est vraiment tout à fait étonnant parce qu'on essaye comme ça de signifier que le genre humain, c'est la même espèce, mais qu'on est tous un peu différents. Et là, ils essayent de stigmatiser nos différences.
Au contraire, de les exalter, de les célébrer.
Ah, vous trouvez ? Ah, mais vous c'est trouvez, plutôt vous moche.
Ah bon ? Moi, j'aime bien.
Moi, ça me fait peur.
Mais peut-être que ça date de l'époque coloniale, effectivement,
oui,
tout ce que l'on voit.
Oui,
c'est possible.
Un petit peu.
C'est possible.
Mais enfin, bon, c'est un terrain extrêmement difficile à commenter.
Il est beaucoup question de drogue dans votre film, à tous les deux. Je croyais que vous n'en preniez jamais, Ariel Dombal. Si vous avez dit juste au théâtre pour essayer la cocaïne. Je me suis demandé d'ailleurs en quoi la cocaïne pouvait vous aider au théâtre.
Mais justement, bizarrement, j'ai évidemment joué mon rôle et celui de mon partenaire. J'ai
en même temps.
Oui, évidemment.
C'est ça, oui.
J'ai décoiffé tout le monde. Enfin, tout ça s'est très, très, très mal passé. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont dit « Tu n'as jamais mieux joué de ta vie. » Mais je ne les ai pas crues. Et je n'ai pas aimé du tout la cocaïne et je trouve que ça fait mal à la tête.
Mais il y a quelqu'un dans votre film qui dit « Tous les grands artistes sont drogués ».
Oui, mais on peut se droguer de tellement de manières différentes. On peut se droguer de paroles, on peut s'enivrer d'amour. C'est la drogue dure par excellence. Mais en fait, les drogues, je crois que la France est un des pays les plus drogués d'Europe. Tout le monde prend des psychotropes et notamment pour dormir.
Pas seulement. On est aussi un des premiers consommateurs de cannabis, de cocaïne d'Europe.
Oui, mais surtout de pilules pour
et
dormir.
Regardez quand les forêts environnant Paris sont remplies de joggeurs, non, mais franchement.
Oui, parce qu'ils sont bourrés d'encéphaline, qui sont les drogues que le sport déclenche en soi. Vous savez, la bêta-endorphine.
Thank you.
Là, on a devant nous une galerie qui représente tous les animaux que chassaient nos ancêtres.
Et voilà, ce qui est étonnant, c'est que les espèces s'adaptent à leur milieu. Et nous aussi, nous sommes une espèce très adaptable. On est très, très malin sur la question. Parce que, mais toutes les espèces, en général, s'adaptent.
Là, donc, on a devant nous des cerfs, des bouquetins, des loups, un bison, les bisons d'Europe.
Le bison est le plus impressionnant. Il est incroyable.
Il y a des poissons aussi, bien entendu.
On sent que le bison a une idée en tête et que ça ne la quittera pas.
Et alors pourquoi Venise ? Pourquoi est-ce que cette obsession de Venise, Arielle Dombasle ?
Obsession de Venise d'abord parce que...
Que vous partagez avec à peu près la moitié de l'humanité. Hein. Tout le monde est obsédé par Venise, c'est bal masqué. Et il y a une scène de bal masqué dans votre film.
Absolument.
Alors pourquoi Venise ?
Pourquoi Venise ? Parce que l'eau, tout Alien Crystal Palace, il y a un sous-marin, ça se passe dans l'eau. Ça vient de notre album La rivière Atlantique, des courants sous-marins, de cette rivière qui coule au milieu de l'océan, de l'Atlantide, de la cathédrale disparue, c'est aquatique.
Et vous auriez pu choisir Bruges. Pourquoi est-ce qu'on retourne toujours à Venise ?
Parce que Venise, c'est gothique.
Il y a aussi l'île de Poviglia, qui est en l'endroit le plus hanté au monde.
Ah oui ? Vous êtes gothique. C'est vrai que j'avais oublié que vous étiez gothique.
On est assez gothique. Et alors, justement, Nicolas voulait aller justement dans cette île qui est un petit peu au large de Venise, mais qui
c'est
est
interdit,
Venise.
Interdit d'y aller
et qui est absolument interdite. Et c'est la plus hantée au monde. Et c'est vrai que c'est là où les pestiférés
étaient. C'est pour ça qu'ils l'ont interdite.
Oui, maintenant elle est interdite. Et ça a été aussi.
C'est parce que ça a attiré tous les cinglés.
Non, à la base, c'était un lazaretto. Et ensuite, après, c'est devenu un asile psychiatrique où il y avait une sorte de docteur Mengele qui. Ses expériences.
Voilà.
Après, il y a aussi c'était un mouvoir.
Pendant la guerre, on déposait les cadavres aussi. Voilà. Et puis surtout, tous les bateaux qui arrivaient faisaient une petite quarantaine et on débarquait les pestiférés avant de toucher Venise et la place Saint-Marc dans cette île de Poroglia. Et donc, Nicolas voulait absolument y aller et on a tourné une scène et ça s'est très, très mal passé. On a été tous très, très malades. C'est vrai que c'est une ville très, très, une île très, très, très dangereuse.
Ça vous apprendra à faire des trucs interdits.
Mais oui, et c'est à ce moment-là où Nicolas dit, mais écoutez, je n'existe pas. Et ça, c'était un mot qu'il a improvisé. Et on était tellement à côté de nous-mêmes parce que la force de l'île nous tapait sur le système.
Heureusement, vous êtes guéris tous les deux. Merci Nicolas de nous avoir rejoints ici. On va continuer notre promenade avec Arielle Dombasle. On va se diriger vers le restaurant du Café de l'Homme.
Oui.
Où vous attendent vos copines.
Et d'ailleurs, on a tous la dalle, comme on dit.
Les titres du journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons sur l'acte 11 des Gilets jaunes avec l'un des leaders de mouvement grièvement blessé à l'œil hier soir. C'était place de la Bastille à Paris. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête et ce matin, l'avocat de Jérôme Rodriguez dit que c'est aussi un LBD, un lanceur de balles de défense, qui a provoqué la blessure alors que des sources policières parlent d'une grenade de désencerclement. Nous ferons le point avec Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Au lendemain de cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, place au foulard rouge, un mouvement qui dénonce les blocages et les violences liées aux manifestations des Gilets jaunes. Ces foulards rouges se sont donné rendez-vous place de la Nation à Paris à 14h. Nous serons sur place. Autre rassemblement à travers toute la France, cette fois pour le climat, avec des marches en région et un débat place de la République à Paris. Les associations espèrent que le succès de la pétition « L'affaire du siècle » qui a déjà réuni plus de 2 millions de signatures va doper la mobilisation. On en parlera avec mon invité Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Nouvel appel à manifester attendu aujourd'hui au Venezuela. Appel lancé par Juan Guaido, le président autoproclamé qui veut mettre la pression sur le chef de l'État Nicolas Maduro en demandant de nouvelles élections. Le journal des sports et à l'instant Novak Djokovic qui s'impose pour la 7e fois à Melbourne en Australie, 15e titre en tournoi du Grand Chelem. Pour le Serbe, il vient de l'emporter très facilement en 3 petits sets, 6-3, 6-2, 6-3 face à Rafael Nadal. On reviendra aussi bien sûr sur la victoire française Herbert Mahut en double qui remporte le tournoi de Melbourne. Enfin la météo et attention au vent. Du mauvais temps partout et ça va souffler très fort jusqu'à 120 km/h sur les côtes.
Merci Fabienne. Il est midi et vous vous baladez avec Frédéric Taddeï. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1, en balade avec Ariel Dombal, Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade avec Ariel Dombal aujourd'hui sur la colline de Chaillot, au Trocadéro. Nous sortons du musée de l'Homme, nous nous rendons au restaurant du Café de l'Homme.
Oui.
Ariel Dombal sort un nouveau film qu'elle a réalisé, qu'elle interprète. Alien Crystal Palace, un film qui, je trouve, est une sorte de vitrine de beaucoup de vos obsessions. On parlait des fêtes vénitiennes, masquées, mais on pourrait parler aussi un peu de masochisme, d'égyptologie, beaucoup de meurtres, de l'adultère, des flics moulés en cuir noir.
C'est ça, parce que c'est un film, je dirais que c'est de l'hyperréalisme fantasmagorique et que c'est certainement pas dans la grande mouvance de la télé-réalité.
Non,
c'est pas de la
pas
télé-réalité. C'est des vrais personnages très construits. C'est une esthétique.
Les flics en cuir noir, j'ai pensé, parce que je sais que vous aimez beaucoup Cocteau, vous lui avez consacré d'ailleurs un film, le précédent.
Opium.
Ça m'a fait penser un peu à ces anges, vous savez, les motards d'Orphée, du Testament d'Orphée.
Oui, oui. Mais enfin, bon, j'ai voulu faire des personnages qui sont impressionnants, mais qui sont sexy. Et alors, comme arme, ils ont des martinets, et puis ils ont écrit « Police ». En lettres gothiques sur le dos, ils sont en cuir très serré, voilà. Mais ils font quand même très très peur, et ils sont les flics qui accompagnent le détective joué par Théo Acola, qui est un autre merveilleux rocker d'orchestre rouge et qui joue le détective.
Il y a Christian Louboutin aussi qui joue dans ce film, c'est vrai.
Il y a Christian Louboutin, il y a Ali Madavi, qui est une merveille. Il y a Tadeusz Ropak, qui est un des plus grands galéristes. Vous savez, c'est un film qui est parti du principe d'admiration. C'est-à-dire que j'ai pris que des gens que j'admire et que j'aime.
Et puis c'est des copains tous, non?
Et c'est des copains. C'est des copains, mais c'est des copains, c'est des êtres qui sont tous très créatifs, très créateurs en eux-mêmes. Chacun est une entité. Je leur demande de jouer des personnages qui ne sont pas eux. Mais je sais qu'ils ont le talent de le faire, parce qu'ils ont du talent tout court. Et donc, et j'aime beaucoup l'idée de s'entourer comme éthique de l'admiration. Je prends des gens dont je sais que le goût est le même que le mien, qui pourront entrer dans dans mon cosmos, qui en seront heureux et qui me diront oui. Et bizarrement, tous les gens à qui j'ai demandé d'être dans mon film, aussi bien Nicolas Kerr, Casia Argento, que Michel Faux, que Joséphine de la Baume, que Zoé Lebert, m'ont dit oui. Et quand on se lance dans une épopée qui a quand même beaucoup d'étrangeté et qui est un film qui a passablement peu d'argent, eh bien, c'est ça qui nous sauve, c'est l'admiration réciproque.
Vous êtes bien amusée sur le tournage ?
C'était beaucoup de préparation en amont, parce que moi, je fais beaucoup de... J'écris vraiment mes films. C'est une architecture très écrite et que je fais beaucoup de post-prod. Je mélange avec beaucoup d'effets spéciaux, de la 3D, des choses qui, en général, coûtent très, très cher. Donc, pour réussir à faire ça, je m'entoure d'amis, là aussi. Sinon, ce serait impossible de faire un film aussi spectaculaire comme est le mien, avec si peu de moyens.
Comment ça se passe quand vous êtes sur le tournage des autres? Vous amusez bien sur les tournages plus traditionnel.
Oui, oui, je dois dire que j'aime beaucoup, beaucoup tourner. Je n'imagine pas un monde sans le cinéma. Moi, je me dis que...
Pourtant, il y en a de plus en plus qui l'imaginent très bien.
Vous avez remarqué, c'est vrai.
Les gens maintenant regardent des séries et parlent des séries plus qu'ils ne parlent que de cinéma.
Oui, parce que maintenant, on est dans l'ère des séries et bientôt, on sera complètement dans les images 3D et on sera ailleurs dans le système de représentation. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime en faire, j'aime en jouer, j'aime en créer, j'aime le regarder. Un monde sans cinéma, pour moi, est impossible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'envie pas aux générations d'avant nous. Comment faisaient-ils sans cinéma? Je me dis souvent, quel dommage qu'ils n'aient pas connu le cinéma.
Lavoisier. Lavoisier allant au cinéma.
Par exemple, hein. Oui. Ça serait
Shakespeare,
formidable.
Molière au cinéma.
Mais oui, ce serait formidable. Ils nous ont tellement, tellement apporté. Et le cinéma, leur aurait, c'est comme une arborisation, ça leur aurait ouvert l'esprit sur tellement de choses. C'est magique, le cinéma.
Eh bien, nous voilà devant le Café de l'Homme, le restaurant du Musée de l'Homme. Vous avez donné rendez-vous à vos camarades. On va y entrer.
Oui.
Frédéric Taddeï, en balade avec Ariel Dombal sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Ariel Dombal reprend dans un instant. Mais avant, je vous rappelle que le lundi 4 février, c'est la 100e matinale de Nikos Aliagas. Alors pour fêter ça, elle se fera en public avec vous. Si vous voulez vous inscrire pour participer à cette émission exceptionnelle, rien de plus facile, vous pouvez aller sur clube1.europe1.fr. Les inscriptions sont bien sûr gratuites, dans la limite des places disponibles. Europe 1. On retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et Ariel Dombal dans un très beau restaurant du 16e arrondissement avec une superbe vue pour parler d'Alien Crystal Palace.
Nous sommes au restaurant du Café de l'Homme avec Ariel Dombal, le restaurant du Café de l'Homme avec sa terrasse donnant sur la tour Eiffel. On est chez Coco Couperie Eiffel, l'arrière petite-fille de Gustave. C'est elle qui a racheté cet emplacement, qui en a fait le restaurant dans lequel nous sommes. Vous avez l'air étonné, vous l'ignoriez.
Non, vous m'apprenez quelque chose, mais en même temps, bon, elle est comme ça, elle voit l'œuvre de son grand-père.
Exactement.
C'est super gay.
Exactement.
Elle a bien raison d'avoir fait ça.
Nous retrouvons donc deux de vos camarades.
Deux de mes héroïnes.
Voilà, vous allez nous les présenter.
Joséphine de la Baume.
Bonjour, Joséphine.
Bonjour.
Comme je disais, je ne prends que des gens tout à fait extraordinaires. Je m'entoure que de gens qui me passionnent et que j'admire. Je ne prends pas des gens au hasard. Et Joséphine...
Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas besoin de les payer comme ça.
Oui, parce que c'est vrai. C'est vrai,
même pas vrai.
C'est vrai. Que le budget était microbe.
Là, il y a Zoé Lebert aussi, elle, je la connais parce que je l'ai connue à Porquerolles il y a 20 ans. Elle était toute petite. J'ai vu dans ce film que vous aviez bien grandi.
C'est un peu cochon comme remarque.
C'est une femme, je l'ai connue enfant. Est-ce que vous voulez...
Mais Zoé est étonnante. Alors, dès que je l'ai rencontrée, je me suis dit, voilà, c'est elle qu'il faut. Et en plus, comme tous les gens du film, ce sont tous vraiment des artistes. Et Zoé, elle fait aussi des films.
Oui, des documentaires, je l'ai vu.
Oh, pas seulement.
Pas seulement, fiction, court-métrage, documentaire.
Alors, comment vous trouvez Alien Crystal Palace? Je disais à Ariel qu'il y avait un peu de porno chic, de très bon goût, mais quand même un peu de porno chic. Elle avait l'air scandalisée.
Non, par le mot porno, que j'aime pas.
Oui, non, c'est pas porno, c'est peut-être érotique, mais pas pornographique.
Voilà, heureusement, elle s'insurge.
Et c'est marrant parce que je regardais des photos... des photos de mes parents, justement, et tout le monde était à poil sur les plages. Et aujourd'hui, c'est très choquant, la nudité, plus que dans les années 70-80.
Non, mais là, quand on parle de porno chic, c'est qu'il y a plus que de la nudité, il y a des étreintes.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes dans le film. C'est un film très fantasmagorique.
Dans le film, toutes les créatures qui sont photographiées, filmées, sont très très belles. Parce que là aussi, ça fait partie de l'éthique. Moi, j'aime toujours magnifier les femmes. Et je choisis toujours des femmes magnifiques. Et donc, toutes mes deux héroïnes, Joséphine et Zoé, sont tellement, tellement, tellement belles. Alors Zoé, elle s'est plus posé la question de la nudité parce qu'elle a fait un film sur la nudité au musée, justement.
Oui, enfin dans plein de musées différents, qui s'appelait Hors les murs, et c'était hors des sentiers battus, en parcourant des expositions, j'imaginais en fait dans des endroits un peu des coins un peu perdus, j'imaginais s'il y avait un corps nu exposé là, si on s'en rendrait compte et quel serait donc le rapport à l'art en fait.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté salle de bain dans les musées justement à cause de ça ? Tellement il y a de corps nus qui se promènent.
Un peu.
Et Joséphine de la Baume alors ?
Et Joséphine a une plastique tellement extraordinaire.
Oui, j'ai vu.
Voilà, vraiment, voilà. Et donc, ne pas la mettre nue aurait été un péché.
On est toutes les deux nues, on est nues l'une sur l'autre dans le film.
Mais d'ailleurs, tout le monde couche avec tout le monde dans ce film.
Pas vraiment, il y a de très très grandes attractions. Et,
il y a un peu de concrétisation.
Et Michel Faux ne couche pas avec Jean-Pierre Léo, par exemple.
Pas encore, ça sera le chapitre 2.
Pas mal,
de...
pas mal le visuel de ça.
Bisexualité, hétérosexualité, il y en a pour tous les goûts.
Bien sûr, puisqu'on tourne autour du queer, on tourne autour de la créature du futur, on tourne autour de l'idée de l'androgynie.
Oui, mais vous avez remarqué, Ariel, quand même, qu'à chaque fois, on fait coucher les femmes ensemble et jamais les hommes ensemble. Pourquoi ?
Mais parce que c'est tellement plus, enfin, érotique et gracieux de femmes ensemble, que deux hommes ensemble. Oh, enfin, il me semble,
je ne suis pas d'accord. Ça vachement bien, les hommes
moi,
ensemble.
Moi, je trouve ça très érotique et très magnifique, deux hommes. Après, ça dépend lesquels hommes, hein, mais, oui. mais deux hommes ensemble, très beaux, comme deux femmes ensemble, très
oui,
belles.
Toute la jeune génération féminine réclame des scènes homosexuelles entre hommes, et non, ouais. On leur donne quand même que d'homosexualité féminine.
Non, il y en a quand même. Il y a des films. J'ai vu un très bon film scandinave dont j'oublie complètement le nom, qui était très beau. Mais c'est aussi un film qui a été écrit, bon, et par Ariel et par Nicolas, mais que Ariel a mis en scène, et peut-être que dans le fantasme d'Ariel,
oui.
Il se mettait plus en image comme ça.
Et puis il y a aussi plein de films en ce moment avec des homosexuels hommes, Call Me By Your Name, il y en a eu
oui,
plein
mais
plus.
Oui, mais à ce moment-là, ce sont des homosexuels, ça ne sont pas des hommes hétéros qui de tout à coup se retrouvent dans un lit, comme on aime le faire pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont hétérosexuelles, mais on va les mettre ensemble dans un lit et il n'y a pas de problème.
Mais on dit que tout le monde est hétérosexuel, tout le monde l'est, on a notre part masculine, notre part féminine, et après il y a une conjugaison multiple dans la fantasmagorie. Avec qui étreint-on vraiment quand on étreint et qu'on transgresse ? Est-ce que c'est la femme en l'autre ? Est-ce que c'est l'homme en l'autre ? C'est tout le principe de la complexité, de l'ambiguïté, de l'attraction. C'est ça qui est intéressant.
En tout cas, vous êtes bien amusés.
Oui, ça c'est sûr.
Oui, on aurait aimé que ça continue sur un autre été encore. Parce que
Zoé, elle était du coup à Tanger. Et moi, j'ai eu la partie Venise.
Venise, oui. Ouais. Vous avez Tanger, c'est censé être le Caire. Hein.
Censé être le Caire. J'ai un tout petit peu pu tourner au Caire et en Égypte, sur le bateau de Christian Louboutin, mais tout le port du Caire, Caire comme Nicolas Caire, est revenu à Tanger, oui.
Ah, donc, Christian Louboutin ne s'est pas contenté de jouer pour vous, il vous a aussi prêté le bateau.
Voilà, mais ça a été très très compliqué. Comme je vous dis, un film désargenté, c'est fait de pieces and beats, beaucoup, beaucoup d'inventions. Il faut tordre le cou du réel pour qu'il entre dans votre fiction et c'est très 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 difficile. Ça semble léger à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de préparation, de rêves, d'élucubration.
Alors comment est Ariel quand elle vous donne en direction d'acteur ? Elle est comment ?
Écoutez, de toute façon, moi j'aime beaucoup travailler avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont aussi acteurs ou actrices, parce que du coup, ils sont souvent de très bons conseils. Ils comprennent un acteur et Ariel, en plus, est très protectrice. Elle soutient beaucoup, très douce.
Elle est bien élevée en plus, ce qui est pas
elle
mal.
Elle est bien élevée, mais oui, moi aussi, je crois, tous. Oui, non, mais Nicolas, je ne sais pas. Mais
pour les metteurs en scène, c'est mieux, ils sont bien élevés. Ils vous demandent les choses poliment.
Après, Ariel, elle pousse énormément à l'improvisation, en fait. Elle nous pousse à être nous-mêmes, elle va chercher qui on est, et pour travailler avec les outils, avec nos propres outils, nous-mêmes, tout en composant un personnage qui est différent. Et elle-même, en fait, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, était à la fois la réalisatrice qui réalisait ce film, mais dans le film, c'est une réalisatrice. Donc, elle était aussi elle-même, en fait. Tous les personnages avaient, c'est ce que je racontais à Joséphine tout à l'heure, tous les personnages mise de ce film, voilà, il y avait une vraie mise en abyme, mais tous les personnages avaient plusieurs...
Plusieurs faces.
Oui, plusieurs faces. C'était très étonnant entre eux. La réalité, il y avait très peu de frontières entre réalité et fiction et fantasme.
Voilà. Et pourtant, c'est ça. On ne sait pas... C'est structuré de manière... On ne sait pas dans quel niveau du réel on est. Mais il faut que les personnages sonnent justes et soient justes. Donc moi, j'ai pris des actrices qui sont parfaitement justes, de très bonnes actrices. Parce que, par exemple, Zoé, je lui fais jouer de multiples rôles. Elle joue aussi dans ce qui est le traumatisme enfantin. Elle joue la maîtresse. Elle joue la princesse.
Et vous êtes un peu coiffée pareil dans le film. Je me suis dit qu'elle
oui, aurait pu
vous jouer enfant.
Oui, peut-être. Elle aurait pu.
On va vous écouter, Ariel, chanter My Love Forevermore. Vous vous souvenez de cette chanson sur votre album French Kiss ? Avec The Hillbilly Moon Explosion et Nicolas Kerr, bien entendu. C'est à vous.
Jusqu'à midi et demi, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et Ariel Dombal dans les rues de Paris. Et vous allez entendre qu'il reste encore plusieurs choses à savoir sur l'artiste.
Nous sommes au restaurant du Café de l'Homme avec Ariel Dombal, Joséphine Delabaume et Zoé Lebert. Et Ariel vient de nous faire marcher le petit chien qu'elle a acheté sur l'esplanade du Musée de l'Homme. Vous pouvez nous le refaire marcher pour que les auditeurs d'Europe 1 imaginent ce que vous allez subir le soir.
Voilà. Ce que le chat va subir, c'est parce que c'est pour le chat.
Un petit chien pour le chat.
Voilà, il a la petite queue qui fouette aussi, elle est rouge. Il a des yeux verts.
Et il est tout ce qui est le plus adorable.
Il ne s'arrête jamais.
Il ne s'arrête jamais. Et je suis sûre qu'il va y avoir une rencontre au sommet. Des rencontres au sommet comme je les aime. Parce que nous sommes avec mes deux actrices adorées qui ont donc été dans mon film Alien Crystal Palace, les héroïnes. Et elles ont été d'une telle invention,
comment vous trouvez d'une d'ailleurs telle plasticité. La jeune génération les filles d'aujourd'hui, vous les trouvez comment, Ariel ?
Je ne vois pas le monde en génération. Je ne vois pas le monde en âge. Je ne vois pas le monde en génération.
Alors,
surtout.
En époque.
Je ne sais jamais quand commence une génération et quand elle finit. Ça me...
Non, mais souvent, on se dit qu'on a été influencé par l'époque dans laquelle on s'est construit.
Moi, je me suis construite vraiment articulée entre trois pays, l'Amérique, le Mexique et la France.
Ben, résultat, vous faites des films sur l'eau. Parce que
exactement.
C'est ce qu'il y avait entre les trois.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, puisque Ariel n'a pas de réponse à ma question, vous en aurez peut-être. Elles sont comment les filles d'aujourd'hui ? En quoi vous vous trouvez différentes de vos mères ? Joséphine Delabaume.
Moi, plus je grandis, plus je ressemble à ma mère. Donc, je me trouve de moins en moins différente.
Et Zoé ?
Oui, bah, c'est à peu près la même chose pour moi. Je ressemble beaucoup à ma mère. Alors, on a tendance à me demander si c'est ma sœur plus que ma mère, ce qui la flatte énormément. Mais je pense, je ne crois pas non plus comme Ariel... à des générations très très marquées. Non, il y a. Enfin...
Oui, il y a certaines choses qui marquent des générations, là, avec tout ce qui se passe, avec la montée du féminisme et tout ça, mais je pense qu'elle a marqué à peu près la génération de ma mère aussi et la génération de ma grand-mère, de manière différente. C'est des mêmes symptômes, mais exprimés de manière différente.
Les gilets jaunes, non ?
Les gilets jaunes, bah ça c'est pas forcément un truc qui touche. C'est pas une question. Bah, si on parle des femmes, vous me parlez de ma mère et de. Je pense pas que c'est vraiment ça en rapport avec un sexe en particulier, mais.
Les gilets jaunes n'ont rien à voir avec la féminité, non.
Mais les gilets jaunes, bien sûr que ça marque.
Voilà, ça marque.
Mais c'est
époque.
Plus la politique d'aujourd'hui. Oui, ça marque une.
Après,
époque.
Vous voir si
c'est
ça.
C'est une insurrection.
Ça reste. Ouais, c'est une insurrection.
Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas dans mon film. C'est de se penser sur le féminin, le mystère du féminin. Qu'est-ce que le féminin, la beauté du féminin, qui est une chose...
C'est pour ça que je pose la question. C'est sur l'éternel féminin ? Il y a un éternel féminin ou...
En tout cas, il est certain que les hommes et les femmes sont presque des espèces opposées. Et tellement, on est vraiment sur des planètes très, très, très différentes. Et voilà. Mais les processus de fascination, ça, c'est intéressant. Parce qu'en effet, ce qui reste une des forces du monde, c'est l'attraction. Et c'est ces forces invisibles, impalpables, et qui sont là. Et quand les gens se plaisent, tous les autres le sentent. Il y a cette attraction, ce désir. Moi, j'ai toujours interrogé dans la vie, le désir. Ça me semble le nerf de la guerre, la chose la plus intéressante au monde. Le désir, où est-il? Pourquoi est-ce qu'il naît? Pourquoi est-ce qu'on désire parfois des gens qui vous seront très maléfiques? Pourquoi est-ce qu'on se précipite dans des précipices? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y échapper? Toutes ces questions, c'est aussi dans Alien Crystal Palace et aussi l'idée de l'éternel retour. C'est-à-dire que nos inconscients nous jouent toujours le même tour et nous font entrer dans des arcanes qui sont toujours les mêmes. C'est Nietzschéen. Et il y a tout ça dans Alien Crystal Palace. C'est les diverses lectures que l'on peut avoir du film. Et pour les interpréter, j'ai pris donc que des gens qui sont dans la vie inspirés, qui font des choses, qui sont dans la mouvance, dans le mouvement de la création, qui ne sont pas des stéréotypes d'actrices, d'acteurs monolithiquement installés dans leur confort.
À qui vous pensez ?
Ben, à beaucoup d'acteurs qui malheureusement entrent dans leur personnage, entrent dans leur popularité, ne sont plus que ça et ne font plus rien, sinon éternellement les mêmes choses. Enfin, vous voyez ?
Non, non, non.
Quelque chose comme ça.
C'est warholien.
C'est warholien.
Accomplir toujours les mêmes gestes. Moi, je pourrais être un acteur warholien, faire exactement la même chose, dire toujours les mêmes phrases dans des films radicalement différents.
Ah oui, ça c'est en effet très warholien. Mais d'ailleurs, le film, il y a une exergue du film, c'est en effet Warhol, c'est « Just do it ». Moi, je me dis toujours ça, je me lance dans des entreprises très, très difficiles, et je pense à Warhol, « Just do it ».
Ce qu'il y a un truc qui est drôle, c'est que moi, j'ai plus du « do it yourself » qui est punk, donc ce serait « Just do it yourself ». Mais Just Do It, c'est Nike, hein, je vous préviens.
Bon, ben si Nike a volé ça...
C'était Nicolas Kerr qui corrigeait.
C'était Nicolas Kerr qui disait que malheureusement, la phrase de Warhol a été reprise par Nike. Voilà. Mais bon, ça, de toute façon, on est tellement dans l'ère des logos, des labels, des machins. Il n'y a plus que ça qui compte. Y a, d'ailleurs, ce sont les seuls fournisseurs maintenant d'art, puisque ce sont les nouveaux mécènes, c'est les marques. Et donc, pour y échapper, là aussi, c'est difficile. Mais Zoé, vous voyez, Zoé, et c'est pour ça que, comme tous les gens dans le film Alien Crystal Palace, tous les êtres qui peuplent ce film sont des gens créatifs en eux-mêmes. C'est un film, on dit le cinéma, c'est le septième art. Mais moi, je crois toujours que c'est le septième art et que c'est un monde qui est fait pour les artistes et pas ni pour des commerçants, ni pour des gens qui font commerce du cinéma pour d'autres raisons. Le cinéma, c'est avant tout de l'art.
Vous êtes d'accord, Joséphine?
Oui. Le cinéma et le septième art, oui. Je pense que ça réunit, et puis surtout, le cinéma réunit énormément de disciplines différentes. Parce qu'il y a la musique qui est importante dans le film d'Ariel, il y a la photographie d'un film, il y a l'écriture, donc ça réunit à peu près toutes les disciplines artistiques.
Exactement. Je vous remercie de nous avoir emmenés en balade avec vous. Ariel Dombal, j'en profite pour remercier aussi Joséphine Delabaume, Zoé Lebert, Nicolas Kerr, le restaurant du Café de l'Homme, le Musée de l'Homme, l'Aquarium. Je vous souhaite le meilleur pour votre film Alien Crystal Palace. Et nous nous retrouvons dimanche à 11h pour une autre balade.
Oh, Frédéric, merci. Oh, il part, il s'éloigne.
Merci.
Bravo.
Merci.
Merci, Frédéric. Rendez-vous en effet dimanche prochain à 11h pour une nouvelle balade. On peut patienter en allant réécouter celle-ci et les anciennes sur europe1.fr.